La grâce seule, c'est le troisième pilier de la réforme protestante que j'aimerais bien aborder ce matin. Vous vous souvenez, nous sommes en train de faire une série avec les cinq piliers de la réforme. D'abord, sola scriptura, l'écriture seule. Ensuite, la foi parce qu'on a vu sola fide, la foi seule. Et maintenant, sola gratia, la grâce seule. Alors, ce sont des piliers qui sont importants pour comprendre ce qui s'est passé à la réforme. Pourquoi est-ce que les réformateurs se sont battus et quelles sont les bases sur lesquelles aujourd'hui nous pouvons vivre, nous, en tant que protestants. Qu'est-ce qui fait notre credo quand on regarde à la parole de Dieu, quand on pense au plan de Dieu dans le monde, pour l'humanité, sur quoi est-ce que nous savons que nous devons nous baser? Qu'est-ce qui font nos convictions? Nous sommes convaincus que Dieu a envoyé son Fils, c'est ça le centre même de l'évangile pour nous, le centre de la parole de Dieu, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le centre même, l'évangile est au centre du projet de Dieu pour l'humanité. Et toute la Bible respire cet évangile. Et pour sauver l'humanité, Dieu a mis ces cinq piliers qui ne sont pas là simplement pour parler du salut de l'homme, mais aussi pour parler de la vie de l'homme. D'où est-ce qu'on est sauvé? Qu'est-ce qui nous donne, à partir de quel cadre? C'est la parole de Dieu, la Bible. C'est la Bible qui nous dit comment on est sauvé. C'est la Bible qui nous dit comment on vit avec Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons entrer en communication avec Dieu? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons entrer en relation avec Dieu? Qu'est-ce qui rend possible le salut à notre niveau, à nous? C'est la foi. C'est la foi. Qu'est-ce qui fait que... Comment expliquer que Dieu a fait cela? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le moyen de l'homme pour être sauvé, c'est la foi, mais le moyen de Dieu pour nous sauver, c'est la grâce. C'est ça qu'on va aborder ce matin. Prions. Merci Seigneur, parce que tu as tout fait, tu as tout accompli, tu as réalisé un plan parfait. Chaque point de ton plan a été accompli, de sorte que Jésus, en mourant sur la croix, avait raison de dire « tout est accompli ». Parce que c'était vrai, tu avais tout fait, tu as atteint tes objectifs. Aide-nous à rentrer dans ce plan, à devenir pas simplement des simples spectateurs, des gens simplement bien inspirés qui comprennent ce que ça veut dire. Non, aide-nous à devenir nous aussi des partenaires, des participants, des gens qui continuent ce plan et qui le réalisent pour toi. Seigneur, accomplis tes desseins dans nos vies à travers l'écoute de cette parole et les échanges. Parle à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais introduire ce sujet par cet extrait que j'ai pris d'une prédication qui traitait justement sur la grâce en rapport avec la réforme. J'ai trouvé ça très très beau comme manière d'introduire. Il disait « Tandis qu'aux portes de la Saxe, le dominicain Tetzel promettait la rémission des péchés et la rémission plénière pour les âmes du purgatoire » à ceux qui verseraient des offrandes dans la caisse des indulgences, à Wittenberg, le moine Augustin et professeur de théologie Martin Luther, ému devant cette perversion du christianisme, afficha sur la porte de l'église, le 31 octobre 1517, un long document en latin, 95 thèses qu'il se proposait de défendre dans un débat public contre quiconque se présenterait pour le réfuter. Que disent ces thèses? Entre autres, que les indulgences ne servent à rien, mais bien au contraire indignent le Seigneur. Que seule la croix de Christ sauve, et qu'il faut exhorter les chrétiens à s'appliquer à suivre Christ, leur chef, à travers les peines, la mort et les enfers, à espérer entrer au ciel par beaucoup de tribulations plutôt que de se reposer sur la sécurité d'une fausse paix. Sola gratia. Seule la grâce sauve. Cette affirmation est le fondement de la réforme et de la pensée protestante. Donc je propose, pour aborder ce sujet, de suivre un peu la même structure qu'on a fait avec les deux précédentes. D'abord, on regarde un peu le cadre historique, le cadre qui a amené à ce qu'on en vienne à cette situation et à cette affirmation, à ce pilier. Et puis ensuite, aborder finalement quel est le fondement biblique, qu'est-ce que la Bible réellement dit. D'où est-ce qu'on peut avoir puisé cela bibliquement parlant? Et puis troisième chose, qu'est-ce que ça nous renvoie aujourd'hui à nous? Parce qu'il faut, comme je vous ai dit, nous ne sommes pas là simplement pour écouter et admirer ces gens. Nous sommes là pour écouter, comprendre le plan de Dieu, afin d'être aussi partenaires à ce plan-là. Dieu ne veut pas simplement des simples spectateurs qui disent « Waouh, Dieu t'a bien fait les choses, super, bravo Seigneur, ok très bien, je m'en vais ». Non, c'est vraiment entendre ce que Dieu a fait, apprécier, le comprendre pour aussi continuer ce travail-là. Le faire aussi dans la sphère de nos vies, là où nous sommes. Donc, premier point, d'abord comprendre d'où vient ce principe, comment il s'est mis en place tout doucement. Donc, à l'époque de Luther, la question de la grâce de Dieu, faisait l'objet d'une discussion assez rude, assez dure, entre d'une part Saint Augustin, on commence à s'habituer à ce nom-là, n'est-ce pas, et puis un autre moine qui s'appelle Pélage. Alors, j'avais évoqué cela brièvement la fois passée, entre ces deux-là, c'était la guerre parce que, pour Saint Augustin, la grâce, elle est nécessaire et indispensable pour le salut de l'homme. Et pour le moine Pélage, au contraire, c'est le choix du pécheur, c'est la volonté, la détermination du pécheur d'être sauvé qui est plus important. Et donc, évidemment, vous pouvez comprendre que Luther, étant lui-même moine augustin, ne pouvait être d'accord qu'avec Saint Augustin. Ça reste un peu logique tout ça, non? Donc, Luther, évidemment, il penchait clairement, lui, il était du même avis que son patron de l'ordre religieux, hein, donc son saint patron, et donc pour lui aussi, il partageait cette idée que la grâce seule sauve, la grâce est indispensable pour le salut de l'homme. Mais si la grâce sauve le pécheur, la question qui était dans la tête de Luther, c'était est-ce que la grâce sauve le pécheur pas au moyen de la foi ou bien au moyen des œuvres? Et nous avions répondu la fois passée à cette question-là en disant que nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi, pas des œuvres. Donc la question-là, elle a été réglée. Mais la question de la grâce a été une question qui a fait polémique, a pris une dimension particulière, surtout avec Calvin, Jean Calvin. Je le dis juste à titre de mémoire, parce qu'on ne peut pas parler de grâce sans parler de ce point précis avec Calvin. Donc la question de la grâce a pris une orientation particulière avec Jean Calvin par la suite, parce que pour lui, la foi seule sauve sans le concours de la volonté du pécheur, car la grâce est irrésistible. C'est-à-dire qu'elle est puissante pour amener le pécheur à la repentance. Et le mécanisme par lequel la grâce opère avec puissance s'appelle la prédestination. C'est un peu compliqué, mais je vais doucement. Alors, si je dois un peu expliquer dans la pensée de Calvin, l'idée c'est que tout se passe comme si Dieu non seulement sait qui va être sauvé, mais Dieu a déjà choisi ceux qui vont être sauvés. Ça, c'est la position de Calvin. C'est pas la mienne. C'est la position de Calvin. C'était cela. Donc Dieu, non seulement il sait qui va être sauvé, mais il a déjà déterminé, choisi déjà qui pourrait être sauvé et qui ne va pas être sauvé. Ça, c'était la position de Calvin, qui donne à la notion de la grâce une couleur particulière. Alors la question, et ça c'est le deuxième point sur lequel je vais aborder, la question c'est: est-ce que cette conception-là de la grâce a-t-elle, trouve-t-elle un fondement biblique? Et donc, deuxième point qu'on va aborder, et comme ça aussi en même temps on en profitera pour actualiser la notion de la grâce à travers la Bible. Deuxième point, le fondement biblique de la grâce de Dieu. Et nous allons aborder cela. Chapitre Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce, sous-entendu de Dieu, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point l'œuvre, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce texte nous permet de comprendre ce qu'est la grâce. La grâce de Dieu est donc un don, c'est un cadeau de Dieu qui consiste dans la faveur qui nous est donnée d'être sauvés alors qu'on ne le mérite pas, alors que tout ce qu'on mérite, c'est la condamnation et la punition éternelle en enfer. Ce texte donc souligne que sans la grâce, on ne peut pas être sauvé. Et donc rejoint la position de saint Augustin qui dit que la grâce est nécessaire, est indispensable, et va plus loin que cela en rendant la grâce comme étant le seul moyen que Dieu a mis en œuvre pour que nous soyons sauvés. Ce texte souligne aussi une autre idée importante, c'est que si la grâce est le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés, ça veut dire que nous ne sommes pas sauvés par notre volonté. Si nous sommes sauvés, c'est le salut vient de Dieu. C'est Dieu qui met les conditions pour être sauvés. C'est lui qui met les choses en place. Nous, les hommes, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Nous avons vu la fois passée que l'homme était incapable de se sauver par lui-même. Donc, ce n'est pas le fruit de nos œuvres, c'est ce que le texte dit. C'est Dieu qui est à l'œuvre et qui a mis en place les choses de A à Z. Il n'y a rien dans notre salut que nous puissions dire que nous avons fait quelque chose. C'est le salut, on peut l'imaginer avec cette parabole du repas, du festin, où on voit le maître qui a tout préparé. Tout est là. Et il dit simplement, appelez les invités. Il attend les invités. Les invités non plus, ils ne doivent plus apporter une bouteille de champagne, ils doivent plus, c'est vrai, c'est la tradition aujourd'hui, hein. Quand on est invité quelque part, on amène quand même une bouteille de vin, un petit truc pour dire merci à la personne. Mais en ce temps-là, c'était vexatoire. Vous faites ça, il est fâché parce qu'il dit, c'est quoi? Tu veux dire que j'ai pas bien fait mon boulot? Non. À l'époque, d'ailleurs, parfois aussi en Afrique, c'est comme ça, encore dans certains coins, tu te pointes avec la nourriture en supplément, te regardes en disant quoi? Donc, c'est moche, ce que j'ai fait, moi. Voilà. Donc, c'est ça. Le salut de Dieu s'assimile à ça. C'est-à-dire à l'idée que Dieu a tout fait de A à Z. Nous, on vient juste pour entrer, pour posséder, pour saisir le salut. Ainsi, donc, la grâce est effectivement indispensable et incontournable pour le salut. On est sauvé parce que Dieu l'a voulu. On est sauvé parce que Dieu l'a permis que nous soyons graciés. Moi, j'aime beaucoup assimiler la notion de la grâce de Dieu avec la notion de la grâce royale ou présidentielle. En tout cas, cette rémission de peine que de temps en temps les souverains de ce monde accordent. Parfois, vous voyez, quand ils arrivent au règne, dans le temps c'était comme ça, je ne sais pas si ça se fait toujours comme ça, mais les souverains arrivaient au règne et puis ils graciaient des gens, des prisonniers, des gens qui ont fait des trucs graves. Et puis on disait, voilà, je rentre, je deviens roi désormais ou président de la République ou peu importe, eh bien voilà, je gracie 20 personnes. Et ces personnes, on efface leur crime. Leur crime est toujours là. Ce qu'ils ont fait, c'est mal, c'est condamnable. La loi avait raison de les mettre en prison. C'est pas que on a été injuste avec eux. On ne gracie pas les cas injustes, hein. On gracie quelqu'un qui avait vraiment, vraiment mal agi. Mais on lui donne une deuxième chance. Malgré le mal qu'il a fait, on lui donne une deuxième chance de pouvoir refaire sa vie, de pouvoir corriger le tir. On le fait aussi de toutes les personnes qui, aux États-Unis ou ailleurs, même je pense en Belgique, quand on est, en Belgique il y a plus de condamnation à mort, mais dans les pays où il y a la peine de mort, celui qui est condamné à mort a le droit de demander la grâce présidentielle. Il a le droit. Et le président peut dire oui, il peut dire non. Mais s'il disait oui, cette personne sort. Elle devient libre. Exactement comme vous et moi. Elle peut circuler. Son casier judiciaire va progressivement, je ne sais pas en combien de temps, mais ça va être, on va remettre tout à zéro. La grâce, c'est un mouvement d'amour de la part de Dieu. C'est une faveur qu'on ne mérite pas, parce que Dieu est un Dieu d'amour. C'est tout. C'est tout. Deuxième texte que j'aimerais bien, pour qu'on avance avec cette conception de la grâce, c'est Tite. J'aime énormément ce texte. Je le vois comme un texte. C'est comme si vous voyez, vous êtes dans l'océan et vous changez. Vous quittez un océan pour aller dans un autre océan. Dans le Nouveau Testament, on voit une nouvelle perspective avec la notion de la grâce à travers ce texte. Je le lis. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Dans d'autres textes, on dit « a été révélée ». J'aime mieux ce texte « révélé », ou le mot « révélé ». Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ce texte nous avance un peu plus en apportant deux éléments importants encore en plus. D'abord, ce texte nous dit que la grâce de Dieu est source du salut pour tous les hommes. Il n'y a pas de catégorie d'hommes. Comme Calvin pensait, il n'y a pas ceux qui sont élus et ceux qui ne sont pas élus. Il n'y a pas ceux qui ont été déjà déterminés depuis longtemps et qui vont être sauvés forcément. Et puis ceux qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent danser sur leurs pieds, ils peuvent adorer, ils peuvent jeûner, ils peuvent prier, ils ne seront jamais sauvés parce que de toute façon Dieu, poubelle. Non, ce texte affirme que tous nous sommes logés à la même enseigne, que la grâce, elle a été révélée pour tous les hommes. Elle sauve tout être humain, quiconque croit. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est très important parce que ça veut dire que Dieu n'a pas destiné les uns à l'enfer et les autres au paradis. Mais Dieu a choisi de sauver les hommes. Et c'est cela qui est contenu, n'est-ce pas, dans la pensée de Jean 3,16, hein, que j'ai donné ici. Quiconque croit en lui. Quiconque, c'est n'importe qui. C'est n'importe qui. Il n'y a pas donc une élection au sens calvinien, au sens de Calvin. Ce texte donc nous permet de pouvoir trouver là des éléments qui nous aident à comprendre et à remettre un peu en question cette notion de la prédestination telle qu'elle est parfois théologiquement enseignée à partir de la pensée de Calvin. Sans être polémique, je ne cherche pas à être polémique parce que c'est une prédication et non pas une démonstration théologique. J'aimerais juste donc simplement sur ce plan-là, sur ce point-là, montrer à quel point Dieu est bon avec nous, Dieu est merveilleux, et que Dieu veut vraiment le bien de tout homme et de tout être humain. Et ça doit nous encourager à nous dire que je suis, peu importe qui je suis, j'ai de la valeur, je suis quelqu'un pour qui Dieu a mis un projet, a fait un projet. Dieu veut faire quelque chose avec moi, peu importe qui je suis. Deuxième chose importante, j'ai dit, il y avait deux choses importantes. D'abord, tous les hommes. Deuxième chose importante, la grâce se présente comme un style de vie. C'est là que je disais que quand on compare cela avec, quand on voit dans la dynamique biblique, on voit vraiment quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que avec la notion de la grâce, c'est comme si on rentre dans un nouveau monde. C'est une autre conception de la vie. La grâce sous-entend, se présente comme une nouvelle manière de vivre, une autre manière de vivre. La vie sous la grâce est une vie caractérisée par des choix volontaires, courageux et volontaires. Je choisis de vivre ma vie de manière à plaire à Dieu, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis. Je le choisis, c'est un choix que je fais. Et je choisis aussi de renoncer. Personne ne m'y force. Personne n'est derrière moi pour me donner des coups de pied et dire à l'échange ou pour me taper. Non, de moi-même, je prends conscience de l'ampleur, de la profondeur de ma relation avec Dieu. Et je dis, waouh, je ne veux pas le décevoir. Je veux être son plaisir. Je veux vivre ma vie de manière à le glorifier. Donc je fais des choix. Je fais des choix, des choses à faire, et puis je fais des choix pour je renonce aux choses que je ne dois pas faire. C'est ce que le texte dit. Elle nous enseigne. La grâce nous enseigne. C'est comme un enseignant, c'est comme un professeur qui nous montre la route. C'est comme un maître. Un maître est là pour pas seulement donner des leçons. Un maître est là pour montrer une façon de vivre, un style de vie, une manière d'être. C'est ça que la grâce fait avec nous, lorsqu'on a bien compris. La grâce agit sur nous de cette façon-là. À quoi est-ce que la grâce nous invite? Elle nous invite, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. L'impiété, c'est l'attitude d'opposition, d'hostilité à l'égard de Dieu. C'est l'attitude où l'on est tout le temps sans savoir pourquoi, mais on déteste Dieu. On se moque de Dieu. On trouve que Dieu, c'est encore des anachronismes, encore des bêtises, encore des histoires. C'est ce que les gens de ce monde sont. Souvent, je dois éteindre ma radio parce que ils font des blagues sur Dieu, mais ils en font tout le temps. Et quand ils font pas des blagues sur Dieu, ils se mettent à attaquer Dieu sur des pensées que Dieu a dit et qui sont même pas bien comprises. J'ai dû dire une fois à un de mes collègues, mais qu'est-ce que Dieu t'a fait, toi personnellement, pour que tu sois aussi agressif avec lui? Il t'a fait quoi? Est-ce qu'il t'a déjà frappé? Est-ce qu'il t'a déjà fait quelque chose? Il dit, non, il ne m'a jamais rien fait, je ne le connais pas. Tu insultes quelqu'un que tu ne connais pas? Comme ça? Juste parce que il est Dieu, parce qu'on aime taper sur Dieu. Ça, c'est l'impiété. Et notre société est comme ça. Je me souviens quand j'étais encore étudiant ici à Louvain-la-Neuve et que je jobais au centre sportif de Bloquerie, il arrivait que on critiquait Dieu et on se moquait de lui. Au début, je riais jaune avec eux. Parce que c'est le groupe, vous voyez, ils sont nombreux, et tap, 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 tap. T'as peur de te singulariser. Mais seulement le problème, c'est que je riais jaune avec eux, mais quand je rentrais, je fulminais. Et quand je priais, j'étais vraiment gêné devant Dieu. J'avais honte. Je disais, Seigneur, j'ai honte parce que je te glorifie, je dis que t'es fort, t'es beau, t'es grand. Et puis, il y a des gens qui se moquent de toi, je n'ose même rien dire. Et puis, j'ai pris la décision. J'ai dit, je vais me faire virer, mais tant pis. Je vais le dire. Et j'ai commencé. Quand ils se moquaient de Dieu, j'intervenais. Quand ils se moquaient de Dieu, je parlais. Vous savez quoi? On ne m'a pas viré. Hein? Mais il ne parlait plus du mal de Dieu devant moi. Il le faisait derrière parce qu'ils ne peuvent pas changer, hein, pas si vite. Mais en tout cas, devant moi, il ne parlait plus du mal de Dieu. Parce que j'avais pris la décision de ne pas laisser faire ce genre de choses. Deux choses intéressantes. Alors, d'une part, renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Vous savez, les convoitises, c'est tout ce que nous désirons, c'est que le monde nous sous-entend que nous devons aimer. La pub est là pour nous aider avec ça, n'est-ce pas? Hein, tu es beau, tu es jeune, tu le vaux bien, achète ceci, fais vite. Surtout, n'oublie pas, achète vite cet aspirateur dernier cri là qui va aspirer au fond du jardin. Je l'envie beaucoup, hein. Mais j'aime bien cet aspirateur là. Enfin, bref. Bon. Donc, ces choses-là, non, c'est un petit clin d'œil à un copain qui est dans la salle, c'est pas grave. Bon. Donc, alors, mais cette aspiration-là, cette façon de vivre-là, on doit la problématiser, on doit se poser des questions. Il y a des choses à renoncer. Mais alors, ça, c'est d'une part. Une part, c'est renoncer. D'autre part, c'est faire des choix. Choix de vivre cette vie selon la sagesse, la justice et la piété. La sagesse, est-ce que je dois vous dire ce que c'est? La justice, vous savez c'est quoi? C'est l'ensemble des choses qui est bien à faire pour Dieu. Et la piété, c'est votre engagement dans votre vie personnelle, votre intimité avec Dieu, votre relation avec Dieu de l'intérieur de vous, là où personne ne peut voir, sauf vous et Dieu. Un style de vie. Donc, ce style de vie doit se vivre selon le modèle qui est Jésus-Christ. C'est lui qui est notre modèle. Et nous sommes comme des pèlerins sur cette terre. Nous sommes là, nous attendons. Nous attendons d'aller au ciel. Mais en attendant, nous sommes mis à part pour le servir. Voyez, on parle de la grâce, mais on voit que la grâce est un mouvement qui opère une façon d'être et une façon de faire. Bref, un style de vie. Donc la grâce de Dieu opère en nous par la prise de conscience de l'horreur du péché et de sa juste rétribution de la part de Dieu. Je commence à vivre selon la grâce lorsque je comprends à quel point mon péché était grave. À quel point j'étais mauvais, à quel point je méritais la condamnation de Dieu, je méritais sa colère, sa condamnation. Je commence à entrer dans la grâce quand je prends conscience de ça. Et lorsque cette conscience commence à m'emmener à faire des choix, je rentre dans la vie de la grâce. Parce que je rentre dans un espace où je ne dépends que de Dieu, je ne m'en remets qu'à Dieu. Cette conscience que le Saint-Esprit met en œuvre en nous, nous pousse à saisir la grâce de Dieu et à s'accrocher à la solution de Dieu par la foi. C'est un peu ce que je retrouve dans le chant qu'on chante, là, Dieu de toute grâce, trésor de bonté. Tout en moi soupire après toi. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé en toi un ami merveilleux. J'ai trouvé en toi quelqu'un qui m'aime et qui vaut la peine d'être suivi, d'être aimé, d'être dans mes relations. J'ai trouvé en toi, dans ce que tu as fait pour moi, quelque chose d'incroyable, qui témoigne tellement d'amour que cet amour, j'ai envie de le remettre en retour. La fidélité, toutes ces choses qui caractérisent finalement la démarche de Dieu vis-à-vis de nous, deviennent des choses qui nous touchent et qui nous aident à aller de l'avant. Juste pour terminer, avant de passer au troisième point, je voulais juste dire que j'ai parlé de ça comme étant un nouveau monde dans lequel on se trouve, et je disais ça en pesant bien mes mots. Regardez dans Jean, chapitre 1, versets 14 à 18. Ça, on parle de Jésus-Christ. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire unique, comme la gloire du Fils unique venu de Dieu, du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, celui dont j'ai dit, celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et regardez le verset 16. Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et c'est pas tout. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Avec Jésus, nous entrons dans le temps de la grâce. Nous rentrons dans la dimension de la grâce. Et c'est important de savoir que, en fait, en acceptant de vivre par la grâce, nous acceptons de vivre avec Christ, selon le mode de vie de Jésus. Troisième point, qu'est-ce que ce texte peut nous inviter à faire aujourd'hui? À quoi est-ce que nous sommes peut-être convoqués aujourd'hui? J'ai vu beaucoup de choses qui ont fait écho. Je voudrais partager deux petites choses qui peut-être peuvent nous inviter aujourd'hui encore à actualiser cette notion de la grâce seule. Sola gratia, grâce seule, m'invite d'abord à rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire à lui exprimer ma reconnaissance pour le salut et la vie qui en découle. Être reconnaissant, dire merci à Dieu pour tout ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et vous savez qu'il y a tellement de choses pour lesquelles on peut lui dire merci. Il y a tellement de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant à Dieu. Et je vais aller plus loin. Non seulement reconnaissant à Dieu par rapport aux bonnes choses, mais même aux moins bonnes choses, aux choses difficiles, aux épreuves. Dire merci à Dieu. C'est ce que 1 Thessaloniciens 5, 17 nous recommande. Il dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. En toutes choses. Pardon, dans d'autres textes, en toutes circonstances, c'est pas grave. Pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On rend grâce à Dieu. Et Éphésiens, chapitre 5, verset 20, va dans le même sens. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de Jésus. Soyons reconnaissants. C'est une façon à nous de rendre la grâce de Dieu réelle dans notre propre vie. Deuxième chose, sola gratia, la grâce seule m'invite à ne pas faire de ma grâce quelque chose de vain. Je voudrais juste regarder un peu le verset du chapitre de 2 Corinthiens. Tu as ça? Ok. 2 Corinthiens 6, verset 1. Regardez. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. On peut bénéficier de la grâce de Dieu et ne pas donner de la plus-value à la grâce de Dieu. Rendre cela inutile, sans effet, sans aucune conséquence pour qui que ce soit. L'apôtre Paul exhorte les Corinthiens en disant, nous voulons que vous fassiez de la grâce que vous avez reçue une plus-value pour Dieu. Comment on peut le faire? On peut le faire notamment en emmenant d'autres personnes à Christ, en évangélisant, en se préoccupant du salut des autres âmes perdues pour qu'ils rendent la même grâce. On peut le faire par aussi la façon dont on va s'engager auprès des autres, des frères et sœurs. Le ministère d'encouragement, les uns des autres. Ne pas laisser les autres en rade, mais s'intéresser à eux et les encourager, leur rappeler combien Dieu est bon et combien Dieu fait grâce. Les gens du dehors ont besoin de savoir que Dieu leur a fait grâce. Beaucoup des gens, quand ils pensent à Dieu, ils voient seulement en un Dieu quelqu'un qui condamne. Et ils ont peur, ils s'enfuient de Dieu. Ils ont peur d'être rejetés par lui ou ils le rejettent d'avance. Mais lorsqu'on commence à parler de la grâce de Dieu, les gens peuvent commencer à se rendre compte qu'ils se trompent sur qui est Dieu. Deux choses donc. Première chose, manifester notre reconnaissance à l'égard de Dieu. Deuxième chose, ne pas rendre cette grâce vaine. Travailler à ce que cette grâce soit une plus-value. Et on le travaille à travers l'évangélisation, à travers le service pour les autres. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Conduis-nous toujours dans sa vérité. Te le demandons au nom de Jésus. Amen.